Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui, je reçois Agnès Sinaï.
Il y a une espèce d'accident, de déviation, de catastrophe que le mot anthropocène résume.
Agnès Sinaï est journaliste et enseignante. Elle est fondatrice de l'Institut Momentum, qui est un laboratoire d'idées sur l'anthropocène, sur les issues de la société industrielle et sur les transitions nécessaires pour le monde post-pétrole.
La décroissance, c'est d'abord une décolonisation de l'imaginaire.
Elle travaille depuis de nombreuses années sur la crise écologique planétaire, sur les notions de décroissance et de résilience. Elle enseigne à Sciences Po Paris, où elle a initié le cours Théorie et politique de la décroissance en 2011.
C'est aussi une utopie, la décroissance. C'est comment vivre de manière égalitaire dans un monde aux ressources raréfiées et avec plus de convivialité et moins d'hédonisme individuel.
Nous avons parlé de la crise écologique, de l'aspect schizophrénique des conférences climatiques, de la notion d'anthropocène, de l'ambivalence du terme de résilience, de la décroissance comme destin et comme utopie, du principe de biorégion, de la prise de conscience et de transition intérieure.
Le catastrophisme éclairé, moi je suis pour.
Pour soutenir Présage, vous pouvez partager les épisodes pour permettre à d'autres personnes de les découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner et me laisser 5 étoiles sur iTunes. Merci beaucoup. Agnès Sinaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et enseignante. Vous travaillez sur la crise écologique planétaire et sur la décroissance notamment. Vous êtes cofondatrice de l'Institut Momentum, qui est un laboratoire d'idées sur l'anthropocène et ses issues. Je voulais d'abord savoir comment vous en êtes venu à travailler sur ces sujets de l'environnement et de la crise écologique.
Ça m'a toujours passionné. Mes premiers articles portaient déjà sur ces questions-là. J'étais attirée par les conférences internationales, les sommets de la Terre, les conférences climatiques. Je faisais des papiers dans le monde diplomatique de temps en temps sur ces questions-là. Et puis, comme j'ai une sensibilité pour les paysages, pour la nature, j'ai toujours aimé la nature et aussi la peinture. L'aspect, la dimension de l'enlaidissement du monde m'a toujours tourmentée, en fait. Et j'ai jamais accepté de voir des entrées de ville bousillées par des panneaux publicitaires, etc. Donc, bon, il y a eu aussi une dimension d'engagement dans l'écologie dans ma vie, combinée avec du journalisme engagé qui s'est progressivement spécialisé sur les questions environnementales. Donc ça s'est passé comme ça, voilà,
assez
depuis
naturellement,
assez,
quoi.
Voilà, et depuis et maintenant une vingtaine d'années.
Et est-ce que vous diriez qu'il y a eu des moments clés dans votre prise, enfin dans votre regard sur le monde?
Effectivement, il y a eu un basculement en 2009 lors de la conférence de Copenhague sur le climat, dont on attendait beaucoup qu'elle boucle un cycle climatique et qu'elle en ouvre un autre. Et puis finalement, c'est là que je me suis rendu compte que ces négociations climatiques, c'était en fait un véritable scandale. C'était une espèce de mirage qui se reforme, et à mesure qu'on avance, en fait, le mirage se dissipe et c'est éternellement reporté. Les échéances sont toujours reportées à plus tard. Et qu'en fait, je me suis aperçue que c'était pas par ce biais de la diplomatie environnementale qu'on allait sauver la planète. Alors que j'y avais cru, en gros, jusqu'au début des années 2000.
Même les décisions qui ont été prises à la COP21 vous paraissent... Enfin, elles sont pas contraignantes dans tous les cas.
Oui, et puis c'est ce langage, la rhétorique de ces conférences qui devient un sujet en lui-même, parce que ces conférences passent leur temps à arbitrer sur des locutions, une nouvelle langue plutôt bureaucratique, comment tel groupe de négociation va être composé, quel périmètre il va avoir, et puis finalement on va en reformer un autre pour se redonner du temps. Et l'accord de Paris, dans un sens, c'est vrai que son principal intérêt, c'est d'avoir réuni tous les pays de la planète, ce qui n'était pas le cas des accords climatiques précédents. Donc c'est vrai que son aspect universel est sans précédent. Mais le contenu du texte, c'est quoi? C'est neutraliser le carbone en 2050. Mais la neutralité carbone, ça ne change pas le modèle économique de croissance. C'est justement là qu'il y a un hiatus qui est extrêmement tendu maintenant, mais toujours pas dit. C'est un non-dit de ces négociations. C'est en fait, on veut continuer à faire tourner le modèle économique qui est fondé sur les énergies fossiles, tout en voulant arriver à zéro émission de carbone et de gaz à effet de serre en 2050. C'est complètement schizophrénique.
Et quel a été le point de départ de la création de l'Institut Momentum ?
Ben, c'était un peu ça, justement. Mmh. C'était l'impression que les questions étaient mal posées et que le niveau de la crise écologique avait dépassé la somme de crises localisées, la crise de l'eau, la crise du climat, la crise de la biodiversité, les forêts. Bon, ça, c'était une manière d'aborder la crise écologique qui, tout d'un coup, m'a paru et a paru, je pense, à un certain nombre de personnes qui ne se connaissaient pas à ce moment-là ou qui se connaissaient. Mais en tout cas, il y a eu une sensibilité qui me semble avoir émergé autour du fait qu'en fait, cette crise écologique, c'était plus qu'un ensemble de crises localisées. C'était vraiment un basculement du monde.
Il fallait voir le tableau global, quoi.
Et qu'il fallait voir le tableau global et puis l'ampleur de ce basculement, de cette discontinuité dans l'histoire des temps de la Terre, et l'identifier comme tel et pas seulement comme on va administrer la planète comme une machine à produire des gaz à effet de serre. C'est plus qu'une crise, c'est vraiment une nouvelle époque. C'est pour ça que la dimension de l'anthropocène m'a fascinée à ce moment-là, et je l'ai découverte par Jacques Greenwald, un professeur d'histoire des sciences suisse qui a aussi forgé le terme de thermo-industriel, Jacques Greenwald, qui ensuite a été repris par Alain Gras. Et la question de l'anthropocène, c'est aussi Jacques Greenwald qui l'a introduite dans le débat des idées en France. Et à ce moment-là, je faisais partie d'une revue d'idées qui s'appelait Anthropia, qui était une revue sur la décroissance. Donc il y avait à la fois une nébuleuse de personnes qui se rencontraient autour de cette revue. Il y avait l'introduction de la question de l'anthropocène et de la question de la thermo-industrielle. Et tout ça n'apparaissait pas dans le débat politique et encore moins dans les conférences internationales.
Justement, quand on parle d'anthropocène, de quoi on parle exactement, et est-ce que la notion fait encore débat? Alors pas d'un point de vue géologique, mais plutôt est-ce que certains préfèrent parler de capitalocène ou d'autres, de préciser un peu la notion?
Moi, je pense que c'est intéressant d'abord de penser la temporalité dans laquelle nous nous trouvons, et qui est donc une méga discontinuité dans l'histoire de la Terre. C'est une espèce d'accident qui est en cours, qui est une interruption d'un cycle, d'un ensemble de cycles, et qui est aussi une déviation dans l'ère interglaciaire qu'on est censé vivre de manière tranquille depuis 15 000 ans. Donc il y a une espèce d'accident, de déviation, de catastrophe que le mot anthropocène résume. Évidemment, qui sont les responsables de cette catastrophe? Est-ce que c'est le capitalisme? Est-ce que c'est le productivisme? Est-ce que c'est l'Angleterre charbonnière du 18e berceau de la révolution industrielle, c'est tout ça en même temps, avec effectivement un accent particulier sur le capitalisme fossile qui a contribué à au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre cumulées depuis 150 ans uniquement à travers des entreprises comme Shell, BP, Saudi Aramco. Bref, le capitalisme des industries fossiles est évidemment en grande partie, immense majorité, même peut-être plus de 40%, de cette catastrophe. Donc oui, mais le capitalisme, c'est aussi du productivisme. Et le productivisme est partagé par des pays qui ne se disaient pas capitalistes. Donc il y a quand même une question autour du productivisme.
Et vous, qu'est-ce que vous voyez advenir dans les décennies qui viennent ? Est-ce que vous imaginez un effondrement brutal, plutôt lent ?
Ben, j'ai réfléchi à ça quand je suis allée en Californie en 2009, une des dernières fois que j'ai pris l'avion. C'était pour aller rencontrer des membres du Post-Carbon Institute qui, eux, effectivement, avant nous, en Californie, étaient un peu des éclaireurs sur cette question de l'effondrement, de se préparer à l'effondrement, d'écrire des uncrash programs, des programmes de résilience à l'effondrement. Et là, j'ai commencé à réfléchir à cette question de l'effondrement et en discutant avec ces Californiens, moi, pour moi, l'effondrement n'est pas brutal. Il est déjà en cours et il est plutôt catabolique que catastrophique. Mais il peut y avoir des effets de seuil qui vont aboutir à des rebondissements d'effondrement qui pourraient être plus brutaux.
Ouais. Vous n'êtes pas, par exemple, aligné avec Yves Cochet, qui est plutôt catastrophiste. Enfin,
oui,
bien sûr, mais brutal.
Oui, oui, je trouve un peu monolithique son interprétation. En même temps, il y a une certaine cohérence à penser qu'une interruption de l'approvisionnement d'énergie fossile croisée avec une épidémie, une pandémie, croisée avec des problèmes climatiques aboutirait à une catastrophe. Moi, je crois qu'il y a une perte graduelle de résilience, notamment dans la toile du vivant qui est transpercée par la disparition des insectes, des abeilles, des oiseaux et qui se délite. Est-ce que ce délitement va aboutir à un précipité, à une sorte d'effondrement par délitement? Ça paraît très cohérent. Mais dans la phase actuelle, j'ai une impression d'effondrement qui a commencé et qui est plutôt de nature catabolique pour l'instant.
Est-ce que, selon vous, il faut adopter une posture de catastrophisme éclairé, pour reprendre Jean-Pierre Dupuis, nommer la catastrophe pour essayer de l'éviter?
Moi, je pense que la peur peut enclencher l'action et que le fait de diagnostiquer de manière juste et d'affronter l'ampleur de la situation ne peut que nous donner plus de temps pour modifier nos perceptions et nous ouvrir à ce qui se passe et garder une certaine rationalité pendant qu'il en est encore temps. Donc effectivement, le catastrophisme éclairé, moi je suis pour.
Du coup, dans ce contexte, comment faire pour mettre en place des communautés qui soient plus résilientes vis-à-vis de ces futurs troubles ? Et qu'est-ce que la résilience peut-être d'abord ?
Mais la résilience, c'est un concept ambivalent finalement, qui est à la fois véhiculé toujours dans ces conférences internationales, notamment sur le volet adaptation au changement climatique. L'idée de la résilience, c'est de s'adapter à des situations finalement potentiellement extrêmes. Hein. C'est comment vivre dans la catastrophe, que ce soit une catastrophe climatique ou nucléaire comme à Fukushima. Donc il y a ce côté un peu dérangeant de ce concept de résilience qui pourrait être instrumentalisé au profit d'une habituation à la catastrophe et d'une banalisation d'un état de catastrophe. Et puis il y a un autre aspect du terme qui est un terme d'origine écologique, hein, qui est emprunté à l'écologie scientifique, qui est la résilience des écosystèmes, leur capacité à résister à des chocs et à s'auto-transformer pour se renforcer en situation d'adversité et finalement à renaître d'eux-mêmes et à évoluer face à l'instabilité. Et avec cette instabilité, il y a une dimension créative dans cette capacité à s'auto-transformer quand on est un système ou un individu ou une société résiliente. C'est le côté qui nous intéresse, c'est celui qui a été introduit par les initiatives de transition à partir de Totnes. Bon, il y en a un peu partout maintenant dans le monde. Donc ça, c'est le côté opérationnel et collectif de la résilience, une idée de résilience commune, partagée, qui promeut la convivialité, qui se base d'abord sur les liens humains, les liens sociaux, puisque si vous connaissez pas votre voisin, vous êtes foutu. Enfin, quand on est isolé, on est très fragile. Donc la résilience, c'est d'abord resserrer les liens dans une communauté, dans un immeuble, dans une rue, dans un quartier ou dans un village. Et puis c'est identifier les ressources disponibles, l'état des ressources vitales, l'eau, les sols, l'air qu'on respire, la capacité des plantes à subsister ou la nécessité d'en réimplanter, c'est ce qui va nous sustenter finalement. Et donc la résilience, c'est à la fois un diagnostic qu'une collectivité peut faire d'elle-même en termes de viabilité de ses ressources, et puis c'est sa capacité à subsister au sein de ressources qui vont être de plus en plus limitées en période d'éventuelle pénurie énergétique ou alimentaire.
Est-ce que la ville de Paris vous semble résiliente ou en voie de d'augmenter sa résilience au niveau des initiatives politiques et citoyennes?
En tout cas, la ville de Paris s'est dotée d'un haut responsable de la résilience qui a été appointé par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et qui est soutenu par la Fondation Rockefeller. Bon, il se trouve que la Fondation Rockefeller ne sait pas quoi faire de ses pétrodollars. Et elle s'est lancée dans le soutien d'un réseau qui s'appelle le C40. C'est le réseau de 40 villes résilientes dans le monde, dont Anne Hidalgo, d'ailleurs, est présidente. Donc, cette notion de résilience, elle intéresse beaucoup les anglo-saxons, plus que les Français, parce que c'est un concept holistique qui est pas très cartésien, mais le fait de créer un haut responsable de la résilience de la ville de Paris, c'est quand même intéressant. Ça montre que ce débat est en train d'arriver, que notamment pendant les épisodes de forte chaleur d'été, la mairie de Paris commence à prendre des mesures pour végétaliser plus. Bon, il y a de la marge, hein. Elle ferme les berges aux voitures. Elle réfléchit à des bâtiments plus économes en clim. Et surtout, elle se demande ce qui va se passer en cas de crue de la Seine. Parce que la résilience à Paris, c'est d'abord la résilience à une crue centennale.
Du coup, je voudrais parler maintenant de décroissance. Donc, quand on parle de décroissance, on parle des notions de limites et de aussi forcément sortir de l'apologie de la croissance et de la démesure. Donc c'est un mot qui est en construction, je crois, enfin un domaine qui est en construction, et c'est un mot qui est un mot obus, comme on dit, qui provoque de la controverse, et c'est sans doute aussi son rôle. En quoi est-ce que la décroissance s'oppose à la croissance verte et au développement durable?
La décroissance, c'est d'abord une décolonisation de l'imaginaire. c'est plein de choses, la décroissance. Mais d'abord, elle se définit comme un exercice qui consiste à se libérer d'une forme de déni ou d'une forme de contamination productiviste de la pensée. Et il se trouve que la croissance verte n'est que la prolongation de la croissance avec des habits verts, entre guillemets, le vert étant surtout l'électricité. Et l'électricité étant décarbonée, ça suffit à la dire verte. Mais la croissance verte, c'est une illusion, c'est une fiction.
Ça aurait pu fonctionner peut-être à une autre... si on s'y était pris beaucoup plus tôt. Ça aurait peut-être fait que repousser le problème, mais...
Mais sans sobriété, sans définition de limite, de quotas, bon, c'est des mots que personne n'aime entendre dans une société hédoniste, mais sans répartition équitable de la rareté, la croissance même verte aurait rapidement rencontré les mêmes écueils, même si elle avait commencé plus tôt. Donc, donc c'est une espèce de manière de travestir ou d'éviter de se poser le problème des limites.
Donc, la décroissance, c'est un destin inexorable pour nos sociétés industrielles. C'est ça qui est difficile de faire admettre à certains.
Mais c'est à la fois un destin et aussi une créativité. Là, on parle de décroissance au sens de récession. Donc ça, c'est possible que... la récession économique soit un destin du modèle actuel. Et du coup, la récession entraînerait des formes de décroissance. On le voit, par exemple, dans les shrinking cities, là, des villes qui rétrécissent, qui perdent leurs habitants. Les villes moyennes en déprise, c'est des villes dites en décroissance. Alors, il y a ce côté, comme ça, de récession dans le mot décroissance. Et puis, celui dont nous nous réclamons, c'est aussi une utopie, la décroissance. C'est comment vivre de manière égalitaire dans un monde aux ressources raréfiées et avec plus de convivialité et moins d'hédonisme individuel.
Qui pourrait appliquer à grande échelle ces politiques de décroissance ?
Moi, je crois que même la politique n'est pas linéaire. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi des basculements, des émergences. On l'a bien vu d'ailleurs, avec Emmanuel Macron, tout d'un coup, la gauche et la droite ont été neutralisées. Bon, je dis pas du tout que je suis macronienne, mais il y a des événements inattendus comme ça. Bon, mais... effectivement, l'incarnation politique de la décroissance, on n'y est pas. Mais par contre, qui ? Les Nations Unies pourraient tout à fait adopter un protocole proposant une réduction de 3% par an de la consommation d'hydrocarbures dans le monde, avec une répartition équitable par pays de cette réduction.
Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait... des chocs ou des catastrophes qui surviennent chez nous pour que on ait un déclic, parce que enfin on est quand même très très loin dans le niveau de catastrophe à tous les niveaux, aussi bien social, écologique, climat, enfin qu'est-ce qu'il faut pour que le déni s'arrête et la dissonance, enfin tout ça quoi.
Moi, je pense qu'il faut travailler le corps social, comme vous le faites, publier des livres, écrire, se mobiliser en tant que citoyen, interpeller les politiques. Il me semble que l'état général de la sensibilité, c'est pas forcément un état très bien portant. Et que finalement, dans le changement que la décroissance pourrait apporter, il y a aussi des aspects qui pourraient être profitables à la société et qui pourraient être peut-être même plus heureux et plus sécurisants. Mais il faut arriver à faire naître des récits, des résonances narratives qui montrent que cette voie, finalement, a quelque chose de plus rassurant que la voie actuelle, qui est très inquiétante. Ouais.
Et il faudrait aussi pouvoir transmettre vraiment de l'information. Et qu'est-ce que vous pensez du rôle des journalistes et des médias dans ce, justement la transmission d'informations et dans la construction de récits actuellement? C'est un peu... Ma question est orientée, forcément.
Bah, il y a toutes sortes de journalistes. Hein. Alors, comme moi-même, je suis journaliste. Bon, moi, j'écris que sur l'environnement, donc je suis pas frustrée. Mais j'ai des collègues qui travaillent dans la presse généraliste et qui disent que tout le monde s'en fout de ces questions-là, qu'elles ont beaucoup de mal à les faire monter, en fait. Mais il faut reconnaître que il y a quand même maintenant plus de surface rédactionnelle dans les grands quotidiens sur les questions écologiques qu'il y a 15 ans. Mais bon, sur la décroissance, non, c'est peanuts. C'est un tabou. C'est un tabou, d'autant plus que les annonceurs publicitaires sont pas compatibles. Mais voilà, il y a de la presse décroissante indépendante aussi.
Et vous enseignez à Sciences Po depuis 2011, je crois, un cours sur les politiques de décroissance, ce qui peut paraître a priori assez étonnant. Comment ça s'est passé la création de ce cours ?
Eh bien, j'étais déjà enseignante à Sciences Po dans un autre cours et j'ai proposé un cours sur la décroissance autour de 2010 effectivement à la secrétaire pédagogique de l'époque qui est devenue une philosophe de l'écologie et de la nature d'ailleurs, Émilie H, et qui était elle-même sous la responsabilité à l'époque de Bruno Latour, qui a depuis quitté ce master, enfin cette département de Sciences Po. Mais en fait, c'est par ces deux alliés, je crois, que le cours de décroissance a pu être inscrit dans le programme d'un master de sciences et politiques de l'environnement. Donc ça s'est passé comme ça, à la fois à ma suggestion et par le soutien d'Émilie H et de Bruno Latour. Et puis ensuite... les étudiants n'ont pas cessé de plébisciter ce cours, puisque on est noté quand on est prof, et on a de très bons retours sur ce cours. Donc Sciences Po reconduit chaque année, pour l'instant, ce cours.
Les étudiants, comment est-ce qu'ils perçoivent justement cet horizon d'effondrement plus ou moins lent? Parce qu'ils sont forcément jeunes, donc ça vient quand même bouleverser pas mal de choses.
C'est vrai que je crois qu'ils apprécient justement d'être confrontés à un discours cohérent. Même s'il est difficile à entendre, la force, à mon avis, du discours de la décroissance, c'est sa cohérence. Après, quand on sort du cours, que ce soit eux ou moi, on se dit, bah, déjà, moi, comment je fais pour être cohérent avec ça? Et puis, qu'est-ce que je fais quand je suis un étudiant? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais comme métier? Vers où je me tourne? Et là, effectivement, c'est peut-être plus difficile, mais en même temps, comme ils sont de plus en plus nombreux, puisque chaque année, maintenant, ils arrivent, ils sont déjà au courant de la permaculture, de la décroissance, ils ont déjà bouquiné, ils sont déjà allés à des conférences, alors que quand on a créé le cours, il y avait rien. Donc il y a une espèce d'interaction qui s'est créée depuis un peu partout, hein. Il y a les conférences internationales sur la décroissance à Budapest. Chaque année, il y en a une ou une fois tous les deux ans. Enfin, il se passe plein de trucs. Et tous ces jeunes sont au courant de tout ça. Mais du coup, ils se sentent peut-être moins seuls maintenant.
Ça vous donne de l'espoir de voir que ce cours a beaucoup de succès auprès des étudiants?
Oui, parce que je pense que déjà, si on commence par un diagnostic franc de la situation, on va peut-être s'outiller différemment pour y faire face. Indifféremment de « Ah oui, avec les énergies renouvelables, on va remplacer le pétrole ». Bon, je pense qu'en effet, ce cours les invite aussi à une créativité politique qu'on essaye par ailleurs de développer avec l'Institut Momentum en réfléchissant à des politiques de l'anthropocène et en les mettant au service du débat sous la forme d'ouvrages collectifs ou de faire monter des auteurs, des thèmes. Voilà, donc effectivement, j'ai bon espoir que tout ça finisse par inspirer des nouvelles mesures.
Et dans le dernier ouvrage de politique de l'Anthropocène, vous parlez des biorégions. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que ça signifie et comment est-ce que on pourrait les instaurer ou les développer ?
Mais cette idée de biorégion, elle est passionnante. Bon, elle vient de la Californie des années 70. Elle vient de la notion d'échelle qui habitait beaucoup un des co-inventeurs de la biorégion qui était Kirkpatrick Sale en Californie. Et elle se définit, la biorégion, comme une entité territoriale limitée par ses ressources naturelles ou dessinée par ses ressources naturelles et culturelles. Donc, la biorégion, c'est d'abord une grille de lecture d'un territoire, je dirais.
Sans frontières.
Sans frontières administratives arbitraires. Les frontières sont des montagnes, des collines, des bassins versants, des estuaires, des vallées, et donc ou des plateaux. Donc, par exemple, si on essaye de dessiner des biorégions en Île-de-France, On va se caler sur le plateau de la Beauce, sur le plateau de la Brie, sur la forêt de Rambouillet, qui va être un élément important d'une biorégion du côté ouest. La plaine de France, c'est un ensemble de terres très fertiles. Au sud, autour de Fontainebleau, c'est des terres plus sableuses avec des réseaux hydrographiques qui vont former un ensemble cohérent entre le Loing, la Seine et d'autres affluents. Bon, bref, on essaye de définir comme ça des entités qui sont calquées sur des éléments de paysage et de ressources. Et à partir de cette connaissance écologique d'un équilibre d'un territoire, équilibre qui a été effacé par la métropolisation, mais on va essayer de restaurer cet équilibre en travaillant beaucoup sur les friches urbaines, en travaillant beaucoup sur les friches agricoles, en sanctuarisant les terres agricoles, en essayant de limiter la taille des parcelles. Bon, ça pose la question du foncier, mais ça donne beaucoup d'idées de gestion territoriale plus bottom-up, hein, plus à partir des territoires eux-mêmes. Alors du coup, voilà, cette notion de biorégion a été ensuite, après les années 70, il y a eu les années 2010, et dans ces années-là, c'est plutôt un Italien, un territorialiste urbaniste qui s'appelle Alberto Magnaghi, qui a refait surgir ces biorégions sous la forme aussi de parcs agricoles urbains et de réseaux polycentriques de petites villes dont le nombre d'habitants ne doit pas dépasser un certain seuil. Et Magnaghi s'en prend beaucoup à cette métropolisation qui fait l'inverse, qui fait grossir des villes déjà grosses et qui fait crever des villes intermédiaires. Or, c'est l'inverse qu'il faudrait faire, en fait. Bon, c'est donc, voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça nous inspire effectivement un nouveau modèle d'aménagement du territoire qui est compatible aussi avec la vision de la permaculture, parce que beaucoup plus cyclique.
Et du coup, qui impliquerait une sorte d'exode urbain ?
Qui inviterait, avant la catastrophe, et qui aiderait les urbains à quitter la culture hors sol des villes en leur proposant des formations, des installations justement dans des villes en déprise où l'agriculture ferait partie effectivement d'une renaissance économique, mais où il s'agirait pas d'être seulement agriculteurs, peut-être d'inventer des bimétiers ou des multimétiers en formant une nouvelle génération de gens qui seraient capables d'être à la fois journalistes ou ingénieurs et en même temps iraient faire de l'agroforesterie et toucheraient un revenu d'existence ou un revenu écologique pour ça. Il y aurait une valorisation de la réparation des sols et des tissus urbains complètement délités par l'étalement et les hypermarchés. Bon, mais ça se ferait pas en 5 minutes, je vous l'accorde. ou oui, peut-être, si l'exode urbain se fait brutalement.
Autre sujet sur plutôt la transition intérieure, parce que quand on réfléchit, on s'intéresse à ces questions sur l'avenir, c'est assez rude. Il y a des prises de conscience qui peuvent être toxiques un peu, je dirais, qui peuvent grignoter l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut essayer de vivre avec cet horizon?
La première chose, c'est qu'on est encore en vie. Et ça reste assez miraculeux. Donc, on a la chance d'être en vie, malgré cette prise de conscience qui nous a pas encore tués. Bon, ce qui ne tue pas renforce. Donc, je dirais que si on survit à cette prise de conscience, c'est que déjà, soi-même, on est assez résilient. Et qu'il y a toujours ce miracle de la vie et des autres. Et justement, c'est ce que j'aime beaucoup à l'Institut Momentum. C'est que ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires et ça nous a autorisé à formuler des idées ensemble qu'on n'aurait peut-être pas osé nous formuler à nous-mêmes. Donc il y a aussi une interactivité amicale et dans la pensée autour de cet Institut Momentum qui a des vertus psychologiques assez positives à mes yeux. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, peut-être qu'une fois que cette prise de conscience est advenue, il y a des choses qu'on supporte moins. On supporte moins peut-être de se trouver dans une grande ville. Il y a des choses qu'on supporte moins. En tout cas, j'ai ressenti ça, mais il faut peut-être s'autoriser à s'écouter et à écouter plus ses émotions. Et son corps et sa sensibilité et s'autoriser à aller vers là où on se sent mieux. Alors c'est plus compliqué dans un monde qui valorise la ville, etc. Mais au moins aller plus dans la nature puisque tant qu'elle existe et puis si on a l'énergie, essayer de mettre en place des projets en lien avec ce sur quoi on a prise, c'est-à-dire peut-être en effet les planter des choses, planter des arbres, Donc je dirais, la première réponse c'est l'interrelation avec les autres et le partage des idées. La deuxième c'est le lien actif avec les sols, avec les plantes, avec la nature.
Et vous, à titre personnel, est-ce que vous préparez à vivre différemment ou est-ce que vous avez déjà fait des aménagements dans votre vie avec toutes ces prises de conscience?
J'ai planté plein d'arbres depuis cette prise de conscience. J'ai fait un jardin dans le sud puisque je partage avec mon père un terrain planté d'oliviers depuis que je suis née. Donc j'ai la chance de pouvoir aller là-bas et y passer du temps. En même temps, je suis moi-même écartelée entre ce que je fais ici, ce que je fais là-bas. Donc je suis à cheval sur des temporalités différentes dans le cadre de ma propre vie qui fait que la cohérence n'est pas encore au rendez-vous. Mais j'aspire effectivement à quitter complètement la ville et à au moins mettre en place quelque chose de l'ordre d'un jardin potager et de relations avec des gens autour du jardin, tout en écrivant des livres. Voilà. Mais j'ai pas trouvé pour l'instant d'autres voies.
C'est un horizon sympathique.
Les deux, voilà. Je trouve que ça va bien d'écrire et de jardiner, voilà.
C'est un beau programme qui me va bien. Merci beaucoup Agnès.
Merci Alexia.
Merci beaucoup à Agnès Sinaï pour cet entretien et merci à vous tous pour votre écoute et vos commentaires. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawel, mixé par Paloma Colombe. Je vous donne rendez-vous sur le site présage.fr pour vous abonner, recevoir la newsletter, approfondir les sujets ou me contacter. À très vite !